le magazine des Nations Unies.
Leïla Zerougui s'est réjouie des progrès engrangés ces 8 dernières années en RDC sur les plans politiques, sécuritaires et judiciaires avec l'appui de la MONUSCO. Cependant, des défis restent à relever, reconnaît la chef de la mission. Un Congolais à l'honneur, Évariste Faoumé, prébiscité lauréat HCR du prix Lancem pour ses activités humanitaires en faveur des réfugiés. L'événement a eu lieu dans la capitale congolaise. Les récipiendaires et l'invité du magazine des Nations Unies. Intégrer la dimension genre dans les politiques et lois de la RDC, environ 70 femmes parlementaires actuelles et anciennes ont réfléchi sur cette problématique au cours d'un atelier organisé cette semaine à Kinshasa par ONU Femmes et CAFCO grâce au financement du Canada. Les détails dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Il y a des progrès qui ont été enregistrés en RDC, a déclaré la chef de la MONUSCO dans une conférence de presse ce jeudi à Kinshasa. Leïla Zerougui note toutefois les défis que le gouvernement doit relever avec l'appui de la mission. Les grandes lignes de l'intervention de la représentante spéciale d'Antonio Guterres avec Jean-Pierre Elali Coco.
Devant les journalistes, Mme Zerougui a noté avec satisfaction les progrès réalisés par le gouvernement, notamment dans l'est du pays, avec bien entendu l'appui de la MONUSCO. Ces progrès sont notables, a-t-elle dit, sur le plan sécuritaire, politique et judiciaire.
Rappelez-vous, il y a 7 ans ou 8 ans, il y avait des zones entières de la RDC, particulièrement à l'est du pays, où des groupes armés occupaient des territoires où les FARDC ne pouvaient pas rentrer. Ça n'existe plus. J'ai vu aussi la présence de l'autorité de l'État qui s'étend, la présence de la justice, parce que, en fin de compte, la stabilité, elle se construit avec la suprématie de la loi. Il y a des choses qui se passent. Sur le plan politique, on a eu quand même des élections qui ont permis une transition souple et qui permet aujourd'hui à ce qu'on peut avoir de l'espoir.
Même motif de satisfaction sur l'évolution positive de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la partie est du pays.
Mais on a un vaccin, on a un traitement et les institutions doivent avoir cette capacité, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ils travaillent pour avoir une capacité de riposte nationale qui permet de répondre sans à chaque fois appeler les autres au secours. Donc c'est ça qui a changé et c'est ça qui nous permet d'avoir de l'espoir.
Quant à la présence de la MONUSCO en RDC, la chef de la mission a explicité les attentes exprimées par le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Et pour elle, le rôle de la MONUSCO n'est pas de rester éternellement en RDC, mais de l'appuyer dans la stabilisation de la paix.
L'objectif, c'est de voir où on est encore utile pour aider la RDC à se stabiliser définitivement et la mission ferme ses portes. Ce qui compte, c'est d'être sûr que quand on quitte une province, on n'aura pas le feu qui s'allume et on revient. Ça, c'est un échec.
Notons que selon Mme Leïla Zerougui, le nombre des casques bleus de la MONUSCO est passé de 22 000 à 13 000. Actuellement, les staffs nationaux ont été réduits à 2 000 et les personnels internationaux à 600.
Le monde célèbre le 1er octobre de chaque année la Journée internationale des personnes âgées. À Kinshasa, le réseau international francophone des aînés, RIFA, a un réseau d'ONG qui valorise les personnes âgées, a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les personnes du troisième âge de la RDC. La personne choisie pour cette célébration, André Loufoua Mawidi, sculpteur et concepteur du célèbre batteur de tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa, aujourd'hui âgé de 97 ans. André Loufoua est le premier professeur noir à l'Académie des Beaux-Arts. RIFA a rendu visite à ses monuments vivants. Jean-Pierre Elali Coco était à sa suite. Voici son reportage.
dans une maison enfouie du quartier UPEN, des statues et des bustes en bronze fixés d'un regard rassurant les visiteurs. C'est ici que réside Maître André Loufoy, 97 ans, artiste et sculpteur congolais de renom. C'est ici qu'une délégation de RIFA lui rend visite. Dans sa gibecière de présents, du vin, de fromage, du kivu, des sachets de sucre, du jus de fruits et une enveloppe. La secrétaire générale de RIFA, Madame Berthe Mayani, explique le sens de la visite.
Ça entre dans nos activités, hein, parce qu'une personne de troisième âge, et nous voulons valoriser les personnes de troisième âge.
Maître Loufoy est très ému, il remercie ses hôtes. Il se souvient surtout du célèbre batteur de tam-tam de la Fikine, œuvre qu'il a façonnée de son jeune créateur.
La conception, c'était la participation à l'invitation de la foire, un peu à la traditionnelle. Quand il y avait un heureux événement qui se produit, nos ancêtres battaient le collet.
Quel bénéfice a-t-il pu tirer de son œuvre?
Je disais rien.
Rien, ce mot illustre bien l'abandon dont font l'objet beaucoup d'artistes congolais et personnes âgées au soir de leur vie. Et RIFA se donne comme mission de revaloriser ces aînés du troisième âge.
Autre nouvelle dans cette édition, il y a nécessité d'intégrer dans toutes les politiques et lois du pays la dimension genre. Cette problématique a fait l'objet d'un atelier organisé à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO dans son partenariat avec ONU Femmes. Honoré Missinga Kalala pour les détails.
Cet atelier a permis aux femmes députées de la RDC de renforcer leur capacité dans l'intégration de la dimension genre dans les politiques et lois de la République. L'atelier leur a aussi permis, pendant les trois journées du 2 au 4 octobre, de partager les expériences avec les élus ayant eu à leur actif plus d'une législature. Madame Rose Mutombo, présidente du cadre permanent des consultations de la femme congolaise, CAFCO, a salué l'appui de l'ONU Femmes et circonscrit l'objectif poursuivi par son association.
Mes remerciements vont à l'ONU Femmes, partenaire de tout temps, qui ne ménage aucun effort pour appuyer CAFCO dans sa lutte pour la promotion des droits de la femme. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise s'est donné comme objectif d'accompagner les femmes en général et les femmes leaders dans le processus de la démocratisation. CAFCO espère que ce type de rencontre permettra le renforcement des capacités des femmes élues à avoir un regard plus genré et sur les lois qui leur seront soumises.
C'est Mme Clémentine Sangara en charge du genre à ONU Femmes qui a représenté la représentante de cette agence onusienne en RDC à cette activité.
Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que le Parlement occupe une place qui vous permet de promouvoir l'objectif d'égalité des sexes. Un Parlement sensible au genre est un Parlement qui répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes à travers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes et son action. Le Parlement sensible au genre supprime les obstacles à la participation pleine et entière des femmes, donne l'exemple ou sert de modèle à la société en général. Ils s'efforcent dans leur travail de promouvoir l'égalité des sexes et veillent à employer efficacement leurs moyens en ce sens.
Du côté de l'Assemblée nationale, c'est Madame Anne-Marie Mbilambangu, élue d'Ilebo et présidente du réseau des femmes parlementaires, qui a représenté la présidente de l'Assemblée nationale à l'ouverture des travaux. Pour elle, cet atelier a offert aux députés une opportunité de mise à niveau par rapport aux us et coutumes parlementaires, l'élu d'Ilebo.
En ce qui nous concerne, cet atelier nous offre une belle occasion de mise à niveau en vue de nous approprier les us et coutumes parlementaires. Ceci nous permet justement d'être à mesure de se défendre et de défendre la cause commune des femmes en portant sa voix dans les autres instances nationales et internationales. Le réseau des femmes parlementaires vous remercie sincèrement pour l'organisation de cet atelier.
Selon ONU Femmes, avec 62% de présence féminine au Parlement, le Rwanda est aujourd'hui une référence en matière de la promotion d'égalité des sexes en Afrique et dans le monde.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons à l'interview que les représentants de la FAO en RDC a accordé au magazine des Nations Unies concernant la mise en œuvre d'une politique agricole régionale commune des États membres de la SADC. L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation FAO et le gouvernement congolais ont organisé récemment un atelier à Kinshasa sur la question. Le docteur Aristide Ongon Obam répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Ogon, Obam, bonjour.
Oui, bonjour.
FAO, le gouvernement congolais, viennent d'organiser un atelier sur la mise en œuvre de la politique agricole commune des États membres de la SADC, en RDC bien entendu. Quels sont les objectifs de cet atelier et ses recommandations?
La SADC, c'est la communauté de développement des États de l'Afrique australe et la RDC fait partie de ce grand ensemble de 15 pays au départ qui sont à 16 pays aujourd'hui avec l'entrée des Comores. Au sein de cette grande communauté, la FAO a accompagné tous ces États à développer, à mettre en place une politique agricole commune avec des objectifs, avec des plans. Et cette politique commune n'est pas toujours très bien comprise dans tous les États membres. Et c'est pour cela qu'en deuxième position, on a demandé à la FAO d'accompagner les États à s'approprier cette politique communautaire de cette sous-région. La SADC a donc mis à la disposition de chaque État, avec bien entendu l'accompagnement de la FAO, des fonds pour permettre à ce qu'on organise ces ateliers dans tous les États membres pour faire de la sensibilisation, pour qu'il y ait de l'appropriation de cette politique au niveau des États. C'est l'objectif de cet atelier, faire connaître aux gens c'est quoi la politique agricole commune de la SADC, quels sont ses objectifs et comment fait-on pour la mettre en
place. Quelles sont les plus grandes recommandations qui sont sorties de cet atelier?
Alors, l'atelier, deux objectifs. On va dire ça comme ça pour faire simple. Le premier objectif, c'est d'expliquer aux autorités nationales c'est quoi la politique agricole commune de la SADC. Alors, il faut absolument que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a dans cette politique. La deuxième chose, c'est de voir un peu au niveau des grands sujets qui intéressent tous ces États, c'est tout ce qui est transfrontalier. Concernant les animaux, les maladies transfrontalières qui peuvent se propager d'un État à un autre, comment on met en place les mesures permettant de lutter contre ces maladies et pouvoir développer le secteur de l'élevage dans la côte. De la même manière, il est question de voir comment protéger les cultures contre les maladies qui peuvent passer d'un pays à un autre et affecter gravement les productions.
Et la RDC, vous l'avez dit tout à l'heure, fait partie de la SADC, mais elle dispose d'un potentiel important de ressources agricoles. Quel rôle peut alors jouer ces pays dans le cadre de cette politique agricole commune?
Alors, tout ce que nous souhaitons, c'est que la RDC, non seulement au sein de la SADC, mais au-delà, parce que la RDC a les capacités et les potentialités, mais au-delà, puisse véritablement jouer son rôle moteur pour nourrir un peu cette population. Alors, il y a deux étapes. La RDC doit utiliser son potentiel, parce qu'il y a un potentiel agricole énorme dans ça, pour arriver déjà à nourrir sa propre population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voir un peu, au-delà, quand cette politique sera bien développée, comment la RDC peut participer à la sécurité alimentaire de toute la sous-région. Et la RDC a ce potentiel-là. Si effectivement la RDC arrive déjà à produire ce qui permet de nourrir sa population, mais elle peut aller au-delà de la RDC et voir un peu au niveau de la SADC. Vous nourrissez les gens, mais vous améliorez aussi les ressources des populations qui sont dans la production agricole. Dans la SADC, nous avons un marché d'un peu plus de 100 millions d'habitants, 100 millions de personnes à nourrir. C'est un grand marché, c'est un potentiel que la RDC peut saisir.
Comment la FAO, dont vous êtes représentant ici en RDC, peut aider le Congo dans ce processus, bien sûr, de rentabiliser son potentiel agricole?
Nous sommes en RDC depuis les années 1978, que là. Et progressivement, la présence de l'organisation a grandi dans le pays. Sur les 26 provinces, nous sommes aujourd'hui présents dans 13 provinces. C'est déjà énorme. Et qu'est-ce que nous faisons dans toutes ces provinces-là? Vous allez arriver là-bas, vous allez trouver nos bureaux, nos staffs et nos équipements. C'est pour accompagner les populations qui en ont besoin. Sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, sur le plan de la résilience, de la sécurité alimentaire, sur les plans de tout ce qui concerne aquaculture, sur le plan même protection de la forêt, du reboisement. Tous ces aspects, nous les développons un peu partout où on est présent en RDC.
Quittons les cadres de la RDC pour aller beaucoup plus dans l'ensemble des pays de la SADC. On sait que pour mettre en œuvre cette politique commune agricole dans la région, il faut non seulement des moyens conséquents, mais aussi de l'expertise. Comment, à ces niveaux-là, la FAO peut-il contribuer aussi?
Alors, la FAO, nous ne faisons finalement que ça, parce qu'on a été créé effectivement pour mettre à la disposition des États l'expertise, qui est notre force. Si la FAO existe, c'est parce qu'elle a une expertise. Nous ne sommes pas une banque, on va dire qu'on a beaucoup de fonds, mais on a beaucoup d'expertise.
Concrètement, comment vous allez faire, vous y prendre pour essayer de booster cette politique agricole?
Alors, ce que nous faisons dans tous les pays où nous sommes présents, c'est d'aller, premier pas, avec le gouvernement. Le gouvernement, avec nous, on va se mettre d'accord, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes, d'identifier clairement, dans ce pays RDC, ou on peut le faire aussi dans un autre pays, quels sont les problèmes. Quelles sont les priorités pour développer l'agriculture? Donc, ensemble, nous identifions ces priorités. Et c'est sur cette base que nous nous engageons. Nous nous engageons d'abord sur le plan institutionnel. Regardez si le pays a les experts qu'il faut. Renforcer les capacités des experts de ce pays. Est-ce qu'ils sont en mesure de conduire ces politiques-là? Ensuite, avec eux, nous développons des politiques sur la base des priorités que nous avons définies ensemble. Sur cette base, comme on a ces politiques sur la base des besoins, des priorités identifiées, nous allons après répondre. Comment répondre? C'est sur la base des priorités identifiées, nous allons formuler, écrire des programmes et des projets, identifier des activités pour répondre aux besoins des populations. Quand ceci est fait, nous accompagnons encore le gouvernement vers les bailleurs de fonds pour pouvoir financer tous ces programmes que nous aurons définis ensemble et aider le pays à les mettre en œuvre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le nord, dans le sud Kivu, dans le Tanganyika, vers Kananga, dans le Kasaï central et un peu partout ailleurs, je vous ai dit.
Vous savez, monsieur, le représentant que les difficultés des transports, le manque d'infrastructures routières pour les échanges et la commercialisation des produits agricoles, le manque d'accès au centre de production et de l'industrialisation, surtout des unités de production, et surtout la qualité des produits dans un contexte de compétitivité. Vous l'avez rappelé dans votre mot lors de cet atelier. Alors, ce sont quand même des pesanteurs, hein, donc qui peuvent ralentir la politique agricole commune. Quelles sont les solutions envisagées par la SADC, par exemple?
Disons que la SADC, de manière globale, ne sort pas de ce qui est prévu dans le PDDAA. C'est le programme de l'agriculture, du développement de l'agriculture africaine, dans le cadre de l'initiative qui est pilotée au niveau de l'Union africaine. À ce niveau-là, qu'est-ce qui a été prévu de manière globale? Il a été prévu qu'on encourage les États, et les États se sont engagés depuis 2003 à Maputo, j'espère que je ne me trompe pas de date, pour mettre un minimum de 10% de leur budget national pour le développement de l'agriculture. Alors, l'agriculture ne doit pas être perçue ici comme tout simplement le petit acte qu'on fait en mettant une graine en terre qui pousse et qui nous donne de la production, on consomme. L'agriculture, pour qu'elle se développe, a besoin d'être dans une chaîne de valeur. Nous devons effectivement avoir des routes qui permettent d'écouler les produits, nous devons avoir des ponts, nous devons avoir des petites unités de transformation, nous devons avoir la capacité de présenter des produits de manière tout à fait acceptable, qui répondent aux normes, pour que ça soit accepté si on veut faire le commerce international. Tout ça, ce n'est pas gratuit, il faut des financements. Et c'est pour ça que la SADC ne peut que s'aligner sur ce qui est prévu sur le plan global.
Docteur Ongon Obam, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est maintenant la page de nos nouvelles en plus bref. Une équipe des affaires civiles de la MONUSCO Beni a effectué mardi dernier une mission à Supa Kalaou, à Kalingati, à plus ou moins 10 km au sud-est de la ville de Beni, dans le groupement Bouliki. Objectif de la mission, s'imprégner de la situation sécuritaire. La délégation de la MONUSCO a eu à parler avec les habitants de la contrée. Elle a également rencontré les FARDC, mais aussi les Maïmaï, qu'elle a sensibilisés à déposer les armes. Restons toujours à Béni dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est impliqué dans l'organisation d'une audience foraine qui se tient dans la commune rurale de Kassindi. C'est à 84 km à l'est de Béni. Cette audience foraine se tient autour de l'affaire opposant l'auditeur militaire de la garnison de Béni et partie civile contre 13 éléments de l'armée congolaise. 10 de ces accusés ont été condamnés pour viol d'enfants, extorsion et écopent entre 5 et 20 ans de servitude pénale. Enfin, direction Kalemi, retour des 40 ménages des camps des déplacés des Moba. C'est la première vague d'une opération démarrée mardi le 1er octobre 2019. Quelques agences onusiennes y ont participé. Il s'agit du PAM, de l'UNFPA, d'OCHA et de l'OIM. Quelques acteurs humanitaires comme AIDES et IMC ainsi que la Commission nationale pour les réfugiés ont également participé à cette opération aux côtés des autorités provinciales. Ces déplacés avaient fui en 2017 les hostilités entre Toa et Bantou.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le lauréat HCR du prix Nansem dans la région d'Afrique, c'est le Congolais Evariste Mfaoumé. 46 ans et originaire du territoire des Fizi dans la province du Sud Kivu, Evariste Mfaoumé est un défenseur des droits de l'homme depuis plusieurs années, particulièrement des déplacés congolais. Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que l'heureux promu a accordé à Radio Okapi et son entretien avec Michel Chirimwami. Suivez.
Bonjour Monsieur Mfaoumé, Evariste.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous êtes le lauréat du prix du HCR pour l'Afrique, un prix dénommé Nansen. Est-ce que c'était une surprise pour vous d'apprendre que vous étiez lauréat du prix?
Ce n'était pas une surprise, c'est une annonce qui est survenue pour essayer de récompenser un travail sur lequel on est depuis de longues années.
Qui est-ce que vous êtes pour avoir un prix du HCR, le prix Nansen?
Je suis un défenseur des droits humains, je suis congolais et depuis plusieurs années je travaille sur la thématique de personnes depuis. Je pense avoir fait suffisamment d'efforts pour essayer d'accompagner des personnes vulnérables, des rapatriés, des réfugiés, des déplacés internes, surtout la cohésion de ces personnes avec des communautés d'accueil.
Qu'est-ce qui a attiré l'attention du donateur du prix de HCR?
D'abord, un travail de grand courage, un travail inlassable depuis 2015. Nous avons accompagné un processus vraiment complexe. Vous savez qu'en 2003, bien qu'il y ait eu la réunification du pays, mais on est resté dans une zone de beaucoup de turbulences ici et qui a provoqué beaucoup de réfugiés congolais en Tanzanie, plus de 150 000 avec la guerre d'Afdel. Et du coup, il y avait bon nombre de réfugiés qui ont commencé à manifester l'intention de retourner, mais qui n'avaient pas des espaces où rentrer. Et ça les mettait dans une confusion parce que lorsque vous fuyez avec une famille et que vous voulez rentrer, vous n'avez pas la possibilité de vous installer. Nous avons trouvé cette question très pertinente. Nous avons eu beaucoup de réflexions avec des réfugiés en Tanzanie. Nous avons eu des réflexions avec des autorités congolaises et d'autres acteurs de la société civile. Et nous avons mené des actions de plaidoyer pour que le gouvernement congolais puisse octroyer des lotissements, des terres, pour installer ses rapatriés. Et cette action a eu beaucoup de fruits parce que dans les localités de Mboko, Sebele, Fizi et Baraka, il existe ce que nous appelons des villages de paix, qui dans les temps c'était des espaces vides de brousse, mais qui ont accueilli déjà plus de 19 000 familles qui ont vu leur réintégration facilitée par ce processus. Ce que je dois ajouter, c'est que la terre, c'est une ressource très très importante dans notre région. La terre signifie l'identité, la terre signifie le pouvoir, la capacité économique. Et le fait que le gouvernement a octroyé ces espaces, ces familles ont eu la joie et la paix de se retrouver, de recommencer la vie. Ça, c'est un élément important qui a attiré l'attention d'autres acteurs et du HCR. Mais l'autre élément, c'est qu'il existe des réfugiés aujourd'hui qui sont venus des pays voisins, qui sont installés dans les camps de Lusenda et de Mulongwe. Et actuellement, nous mettons en œuvre des activités qui visent à renforcer leur résilience, qui vise à renforcer la coexistence pacifique entre ces réfugiés, les déplacés internes et les communautés d'accueil. Et nous avons des activités agricoles qui ont l'objet de renforcer cette cohésion sociale. Donc les réfugiés, les déplacés, les membres de communautés d'accueil travaillent ensemble. Ils ont des champs communautaires où ils travaillent ensemble. Et vous savez, pour mettre en place un champ, dès les travaux préparatoires, jusqu'à la récolte, jusqu'à la production, vous êtes toujours en dialogue permanent vous tissez des liens, ça vous rapproche davantage. Et quand vous mettez ensemble tous ces efforts, vraiment sur une longue durée, sans fatigue, dans un environnement très sensible, comme vous le savez, parfois au péril de la vie, ça ne mérite qu'être reconnu par la communauté internationale. Et pour nous, c'est une très bonne chose.
Oui, mais est-ce que vous avez d'abord été réfugié et qu'ensuite vous êtes intéressé à la vie des réfugiés ou c'est l'inverse?
À part le travail que nous faisons, nous avons été touchés plusieurs fois, nous avons été déplacés, nous avons été réfugiés avec la famille, nous avons fait plusieurs tours à leur retour et du coup, nous sommes le produit de l'humanité. Nous ne pouvons pas manquer d'être sensibles à cette problématique parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Moi, je me rappelle toujours le thème de la Journée internationale des réfugiés en juin 2017 qui dit « Des réfugiés, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont été contraints de fuir ensemble avec les réfugiés. » Ça, ça dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai la responsabilité morale de faire quelque chose comme effort dans ce travail.
Monsieur Evariste Mfaoumé, merci.
Merci.
Rendons-nous maintenant au Maniema, à Kindu précisément, où la MONUSCO a échangé avec une vingtaine de représentants des organisations des jeunes. C'était mardi le 1er octobre 2019 et les échanges ont porté sur le mandat de la mission onusienne en RDC. La section des affaires civiles, la police des Nations Unies et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont tour à tour parlé de leurs missions spécifiques ainsi que leurs attentes vis-à-vis des associations des jeunes. Bouchiri Kaloumé Bernard, président de l'association Les Jeunes Avenir du Congo, c'est nous, fait les points de cette rencontre et il est au micro de Christian Mapindano.
La MONUSCO a voulu réunir les associations de jeunes comme ça au sein du Conseil provincial des jeunes pour les orienter de la manière dont la MONUSCO travaille, donc quelle est la mission de la MONUSCO et puis quel est l'apport de la MONUSCO sur la jeunesse, donc que la jeunesse puisse aider la MONUSCO à réaliser bien sa mission, que la jeunesse puisse accompagner la MONUSCO dans tout ce que la MONUSCO peut avoir comme activité, comme réalisation, ou soit comme vision par rapport à la jeunesse, à ce que nous puissions ensemble faire quelque chose, ou soit relever notre Maniema.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Une question sur les changements climatiques, l'un des thèmes débattus à New York, a été posée à la représentante spéciale Leila Zeghrougui à la conférence de presse qu'elle a animée jeudi dernier à Kinshasa. Je vous propose de suivre la question et la réponse de Madame Zeghrougui.
Merci, c'est Venant Vodissa pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Madame la représentante spéciale, vous revenez de New York. Qu'est-ce qui a été retenu en faveur de la RD Congo qui regorge la deuxième réserve mondiale en matière de forêt pour que ce pays continue à lutter et à sensibiliser contre le changement climatique?
C'est le président de la République qui était présent à cet événement. Malheureusement, moi j'étais dans d'autres réunions et je sais qu'il était là. Il a fait un discours très important rappelant toutes les opportunités. D'abord, les richesses, particulièrement, comme vous le dites, un des poumons les plus importants du monde se trouve dans ce pays. Et il y a beaucoup de choses à faire dans la forêt congolaise, sans la menacer et sans l'affecter. Par exemple, j'ai rencontré le gouverneur du Sankuru qui me dit « Nous avons une réserve, nous voulons la préserver, mais nous voulons aussi que la population en bénéficie. » C'est le plaidoyer que le président a fait, parce que si on vient, on investit en RDC, on développe la population, on préserve justement l'environnement, parce que l'environnement, on peut le casser, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre moyen. Parce qu'on est dans la pauvreté et donc on s'attaque à ce qu'on doit préserver. Parce que c'est un luxe que les pauvres ne peuvent pas se permettre. Et c'est pour ça, c'est dans l'intérêt de l'humanité de pouvoir appuyer des pays qui regorgent de richesses, qui peuvent soutenir et préserver la vie sur notre planète.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À noter dans vos agendas pour la semaine qui commence d'abord le 7 octobre, c'est ce lundi, le HCR va célébrer à Genève le prix Nansem dont le lauréat cette année est le Congolais Évariste Faoumé. Notez en plus dans les calendriers de l'ONU, le 9 octobre, journée mondiale de la poste, le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale et le 12 octobre, journée mondiale de la vue. Et c'est la fin de ce 378e numéro du magazine des Nations Unies. Jean-Pierre Elali Coco était à la coordination. Honoré Missenga au reportage et à la réalisation. Julien Galas et moi, j'étais à la présentation. Et Jean-Claude Sial a été à la technique. Toute l'équipe vous remercie. Rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro du magazine des Nations Unies. Excellente journée dominicale à tous.